création on air. Creation on air.
Bonsoir. Création on air s'aventure dans l'univers du docteur Duchesne de Boulogne. C'est au 19e siècle qu'il développe une technique de stimulation électrique sur le visage de ses patients, associant expérience et photographie. Certains patients étant réticents à se voir ainsi manipulés, son choix se porte très vite sur un unique cobaye, un homme aux muscles faciaux paralysés. Aujourd'hui, l'un réalise une série de 10 planches entre gravure, peinture et collage, incarnant l'expérience. L'autre écrit en imaginant cette singulière exploration du visage humain. Les deux improvisent sur le motif. Les effarés, l'orthographe des émotions du docteur Duchesne, par Raphaël Saint-Rémy, Benjamin Bourdonneau, Anna Schmuck, création on air.
Mécanisme de la physionomie humaine ou analyse électrophysiologique de l'expression des patients par le docteur Guillaume Duchesne. Lauréat de l'Institut de France et de l'Académie de médecine de Paris, prix ITAR. Lauréat du concours Napoléon III sur l'électricité appliquée. Membre titulaire de la Société de médecine de Paris. Membre correspondant des académies, universités et sociétés de médecine de Dresde, Florence, Genève, Quiètre, Leipzig, Madrid, Moscou, Naples, Rome, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Vienne, Wurtzbourg, etc. Chevalier de la Légion d'honneur. Avec un atlas composé de 74 figures électrophysiologiques photographiées.
La vie est riche. La nuit échafaude sa riposte. Rassemble ses rangs. Prépare ses projectiles.
Les effarés, l'orthographe des émotions du docteur Duchesne. Une création de Benjamin Bourdonneau et Raphaël Saint-Rémy.
Lorsque l'âme est agitée, la face humaine devient un tableau vivant, où les passions sont rendues avec autant de délicatesse que d'énergie, où chaque mouvement de l'âme est exprimé par un trait, chaque action par un caractère, dont l'impression vive et prompte devance la volonté, nous décèle et rend au dehors, par des signes pathétiques, les images de nos plus secrètes agitations. L'âme est donc la source de l'expression. C'est elle qui met en jeu les muscles et qui leur fait peindre sur la face, en traits caractéristiques, l'image de nos passions. En conséquence, les lois qui régissent l'expression de la physionomie humaine peuvent être recherchées par l'étude de l'action musculaire. C'est un problème dont je cherche la solution depuis bien des années, provoquant, à l'aide de courants électriques, la contraction des muscles de la face pour leur faire parler le langage des passions et des sentiments.
Est une sorte de question appliquée à la nature pour la faire parler.
L'expérience, dit Bacon, est une sorte de question appliquée à la nature pour la faire parler. Cette étude attentive de l'action musculaire partielle m'a révélé la raison d'être des lignes, des rides et des plis de la face en mouvement.
Or, ces lignes et ces plis sont justement les signes qui, par leur combinaison variée, servent à l'expression de la physionomie.
Or, ces lignes et ces plis sont justement les signes qui, par leur combinaison variée, servent à l'expression de la physionomie. Il m'a donc été possible, en remontant du muscle expressif à l'âme qui le met en action, d'étudier et de découvrir le mécanisme, les lois de la physionomie humaine. Je ne me bornerai pas à formuler ces lois. Je représenterai par la photographie les lignes expressives de la face pendant la contraction électrique de ces muscles.
En résumé, je ferai connaître par l'analyse électrophysiologique et à l'aide de la photographie
l'art de peindre correctement
les lignes expressives de la face humaine et que l'on pourrait appeler orthographe de la physionomie en mouvement.
Planche 1. Le vieil homme et une tête sans peau, centre gauche du support. Encre, tache et graphite, trait, essuyé sur la bande latérale droite. Texte, anatomie et physiologie animale, système nerveux.
Étrange.
Que je regarde en moi et aussitôt mes chairs, faites d'ombre, entrent en révolution. Effrayées par les pensées étranges qui, soudain, en cohorte, défilent sur leur terre, elles ne voient d'autre choix face à cette invasion que de tourner toujours. Je sais être seul responsable de ce grand tourbillon et entends bien que pour calmer cette tempête, c'est contre moi-même qu'il me faudrait lutter. Mais c'est la chose impossible, car toutes ces pensées qui, en pluie régulière, s'abattent sur mes chairs, une fois dans les tréfonds, ressurgissent d'elles-mêmes et court vers la surface, avide d'alimenter le puits dans lequel je me noie.
C'est contre moi-même qu'il me faudrait lutter. Avide que je regarde en moi. Effrayé, qui soudain en cohorte, je sais être seul, responsable de ce grand tourbillon, calmer cette tempête.
En moi s'affrontent les forces du cosmos.
Planche 2. Le vieil homme est scotché de jaune. Un trait bleu de craie grasse surgit de son œil gauche.
L'ovale de mon visage est l'air de combat où les puissances célestes aiment en venir aux mains.
Encre noire et scotch bleu, pierre, on géologique.
Quand le ciel diurne d'un doigt rapide laisse sur ma joue la trace de son passage, en face, aux confins de ma joue adverse, la nuit échafaude sa riposte, rassemble ses hordes, prépare ses projectiles, se fie à son inorganisation pour affronter ce pédant invisible qui sans cesse la nargue.
Pâte acrylique orangée, morceau de carte de la région Rhône.
Élu involontaire de ce conflit sans mesure, j'attends l'assaut qui signera ma fin.
Carton et fossiles en haut à droite.
Mes yeux, mon nez, ma bouche, les rides de mon front et ma frayeur surtout sont un terrain propice à cette mêlée fatale.
Introduction.
Les faits qui ressortent de mes expériences électrophysiologiques sur le mécanisme de la physionomie en mouvement sont de ceux qui ne peuvent être jugés que par la vue. J'ai répété ces expériences des centaines de fois, en présence de nombreux témoins, et toujours elles ont porté la conviction dans les esprits. Des artistes habiles ont vainement essayé de les représenter, car les contractions provoquées par le courant électrique sont de trop courte durée pour que le dessin ou la peinture puisse reproduire exactement les lignes expressives qui se développent alors sur la face. La photographie seule, aussi fidèle que le miroir, pouvait atteindre la perfection désirable. Elle m'a permis de composer, d'après nature, un album de figures qui feront, pour ainsi dire, assister mes lecteurs aux expériences électrophysiologiques que j'ai faites sur la face de l'homme. L'individu que j'ai choisi comme sujet principal des expériences représentées par la photographie dans cet album est un vieillard, édenté, à la face maigre, dont les traits, sans être absolument laids, approchent de la trivialité, dont la physionomie est en parfaite concordance avec son caractère inoffensif et son intelligence assez bornée. Voici les raisons qui ont déterminé ce choix. Premièrement, dans la vieillesse, on voit sous l'influence des contractions musculaires se dessiner toutes les lignes expressives de la face. Les lignes fondamentales et secondaire. Deuxièmement, la maigreur de mon sujet favorise le développement de ces lignes expressives et facilite en même temps l'électrisation partielle des muscles de la face. Troisièmement, à cette figure triviale, je n'ai pas préféré des traits nobles et beaux. Ce n'est pas que l'on doive représenter la nature dans ses imperfections pour la représenter exactement. J'ai voulu seulement démontrer qu'en l'absence de beauté plastique, malgré les défauts de la forme, toute figure humaine peut devenir moralement belle par la peinture fidèle des émotions de l'âme. On verra que l'on arrive à ce résultat en excitant partiellement les organes moteurs de la face dont la principale fonction est de peindre nos passions. Quatrièmement, enfin, cet homme présentait une condition très favorable que je n'ai pas rencontrée chez d'autres sujets. Il est peu de personnes qui consentent à se soumettre à ce genre d'expérience parce que, sans être très douloureuse, l'électrisation des muscles de la face provoque des mouvements involontaires, comme par exemple la contorsion des traits du visage. Ce sujet, lui, était peu sensible. Il était atteint d'une affection compliquée d'anesthésie de la face. Je pouvais expérimenter sur cette région sans qu'il en éprouvât de la douleur, au point que je faisais contracter partiellement ses muscles avec autant de précision et de sûreté que sur le cadavre encore irritable.
Sensibilité électrique est très vive dans les muscles de la face. Elle est due à la cinquième paire qui leur envoie des filets nerveux. Dans la faradisation des muscles de la face, on doit toujours éviter de placer les rhéophores sur les points correspondants aux nerfs sous-orbitaires ou mentonniers. Il résulterait de l'excitation de ces nerfs une douleur aiguë qui retentirait au loin dans les dents. Et quelquefois, dans le fond de l'orbite. La faradisation directe du muscle frontal qui est croisé par ses filets nerveux est très douloureuse. Les muscles orbiculaires des paupières épinales radiées et épinales transverses, élévateurs communs de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, carré du menton, de la houppe du menton, orbiculaire des lèvres et triangulaire des lèvres sont les plus excitables. La paralysation musculaire, surtout celle qui est pratiquée avec des intermittences rapides, est beaucoup plus douloureuse au moment où le rhéophore est mis en contact avec la peau. Voici comment il faut alors procéder pour éviter au malade cette sensation mixte, cutanée et musculaire, très douloureuse. Avant de poser les rhéophores sur la peau, on les rapproche l'un de l'autre, de manière à les mettre en rapport. Lorsqu'ils ont été mis en contact parfait avec la peau, sur laquelle ils appuient légèrement, on les éloigne l'un de l'autre, de telle sorte que la recomposition électrique se fasse dans le muscle à exciter.
Planche 3. Le vieil homme est coupé en deux. Les deux moitiés du visage occupent les bords extérieurs. À droite, un œil bleu. Au centre, bande verticale, pâte acrylique orangée, morceau de carte des causses du Quercy. Zone inférieure, fossiles, encre, carton.
L'âme chauffée au rouge, que son incandescence même lézarde, la terre de mes ancêtres irrémédiablement me sépare de moi-même. Ces chemins tortueux, ces rivages cruels, le sang noir qui goutte de sa pointe, creusent entre moi et moi un fossé définitif. À l'observer, mon œil se glace, mon cœur se fossilise. Ce fer qu'aucune chair n'arrête fait naître en moi une peur bleue que je ne peux combattre qu'en me désunissant.
Glace.
Planche 4. Le vieil homme a la joue découpée, de l'encre noire par derrière sa tête.
À chaque instant, je revis l'instant fatal où mes yeux ont cessé de voir autre chose que ma fin accolée à mon commencement.
Fossile zone gauche et trois figures. 25, trois ammonites du Crétacé, au centre d'un losange partiel, graphite, carton, craie rose de part et d'autre de la tête.
À présent que je ne peux plus regarder qu'en moi-même, mes propres ténèbres déploient sans retenue leurs tubéreuses racines, étendent leurs bras de poulpe vers les vestiges crayeux du Crétacé, ou les spirales galactiques, immenses et silencieuses, que l'on ne voit qu'en rêve.
En cette nuit épaisse.
Du texte inversé en zone épaisse. Inférieure.
En cette nuit épaisse, et mes pensées se dissolvent. Je ne perçois plus d'elles que leurs premiers balbutiements, vis primitives, hélices spiralées des premières hypothèses vrillées à la façon des ammonites, ou leur éclatement final, leur définitive dispersion. Entre ces deux contrées, rien, sinon ce noir de sèche qui peu à peu m'avale.
Leur premier balbutiement.
Planche 5. Le vieil homme est traversé d'un trait rose. Son menton a été découpé. Carton, fossile, encre noire, graphite, bord latéral gauche.
Dans le coin qui m'ouvre en deux le crâne, se lit la géographie de ma sidération. Circonvolutions rocailleuses, pistes incertaines, rivières douteuses, cette terre grossièrement cadastrée par de lointains ancêtres est le clou qui me fixe aux ténèbres.
En haut, pâte acrylique orangée, morceaux de cartes de Saône, Doubs, Meuse. En bas à gauche, pâte acrylique orangée, morceaux de cartes d'une forêt et d'un camp retranché.
De ma bouche s'échappent des galaxies que la nuit fossilise. Au-delà des mots, au-delà des marges, là où les taches perdent pied, là où les myriapodes n'osent s'aventurer, ceux qui aujourd'hui se vengent de l'oubli que j'ai d'eux n'ont laissé que des traces.
Au centre, figure 26, inurite. Figure 119, myriapode.
Prisonnier de l'instant, mon horizon est vertical. Je vois des pierres s'ouvrir comme des courges, des mots sans contour engloutir ceux qui n'ont plus de langue, et ma seule perspective est le recommencement.
Les nerfs moteurs de la face. Filet moteur du frontal. Filet moteur du sourcilier. Filet moteur de l'orbiculaire palpébral supérieur. Filet moteur du palpébral supérieur. Filet moteur du palpébral inférieur. Filet moteur de l'orbiculaire palpébral inférieur. Filet moteur du grand zygomatique. Filet moteur du petit zygomatique. Filet moteur de l'élévateur propre de la lèvre supérieure. Filet moteur du transverse du nez. Filet moteur de l'élévateur commun de la lèvre supérieure et de l'aile du nez. Filet moteur de l'orbiculaire des lèvres. Filet moteur du carré dit menton. Filet moteur de la houppe du menton. Filet moteur du poussier.
tronc du facial à sa sortie de l'aqueduc de Fallope, branche temporofaciale, branche cervico-faciale, filet moteur des muscles auriculaires postérieurs et supérieurs, filet moteur du muscle occipital, branche auriculo-temporale de la cinquième paire, rameau moteur des muscles orbiculaires inférieurs des lèvres, carré du menton, houppe du menton et triangulaire des lèvres.
La peau de la face est beaucoup plus sensible à l'action électrique. Ainsi, son excitabilité est plus grande sur les paupières, le nez et le menton que sur les joues. La peau qui recouvre la paupière supérieure, les ailes et le lobule du nez, et surtout les bords des orifices des narines. La dépression sous-nasale de la lèvre supérieure, le lieu de jonction de la peau et de la muqueuse labiale sont les points qui ressentent le plus vivement l'excitation électrique. Au front, la sensibilité électrocutanée est moins grande qu'à la face et diminue d'autant plus qu'on approche davantage du cuir chevelu. Et elle est comparativement peu développée dans ce dernier point où il faudrait un courant assez intense pour la produire.
Planche 6. Au centre, le vieil homme a la bouche découpée. Un trait bleu glisse de son œil.
C'est depuis des fonds insondables qu'inlassablement je contemple l'instant de ma noyade. Instant merveilleux et fatal, où telle une lame, ma chute a percé la peau trop plane de ma fade existence.
Inlassablement.
Scotch bleu à gauche, fossile, peinture rose, carton.
À présent, mon ciel est nappé de pétrole. Des îles gonflées d'eau y dérivent lentement, semblant chercher d'impossibles attaches parmi la houle qu'elle fuit.
5 traits d'encre noire sur zone droite.
Ailleurs, de sombres remous cherchent à se faire langage, mais à mesure qu'augmente leur troupe, le mystère qu'ils voudraient révéler ne fait que s'épaissir.
En bas, pâte acrylique orangée, morceau de carte port de bouc. Une carpe et une perche sur le bord droit.
Ainsi, toujours s'accélérant, va mon engloutissement,
ma chute,
transformant la course paisible des poissons en une fuite verticale.
Mon cœur.
Je contemple.
Inlassablement, je contemple.
Frontal. Orbiculaire palpébrale supérieure. Palpéros supérieur et inférieur. Orbiculaire palpébrale et inférieur. Muscle de la bienveillance. La joie franche. Pleurer modéré. Chagrin. Pleurer. Pleurnicher. Joie. Tristesse. Agressive. Douleur. Agression. Lascivité. Lubricité. Passionné. Ironie. Agressive. Ironie. Colère. Agressive. Violente. Fureur. Pleurer. Bienveillance. Bienveillance. Joie franche. Doute. Dédain. Extase. Délire. Délire sensuel. Délire sensuel.
De la surprise. La figure 55, où la mâchoire inférieure est seulement abaissée, n'exprime assurément aucune émotion de l'âme. Mais on sent à la vue de la figure 50 que le sujet qu'elle représente vient d'apprendre une nouvelle inattendue ou qu'il aperçoit un objet qui le surprend. C'est l'expression de la surprise que j'ai obtenue en combinant l'abaissement volontaire de la mâchoire inférieure avec la contraction électrique du frontal. La même combinaison musculaire au maximum de contraction peint dans la figure 57, une émotion analogue, mais à son plus haut degré de manifestation. L'impression y est plus forte et l'ébranlement plus grand. Cet homme contemple une chose avec la plus grande surprise. Il a peine à y croire, comme s'il tombait des nues. Il est fortement ému. Il est étonné. Il est ébahi. Il demeure stupide. Exprimer expérimentalement des expressions aussi justes que dans ces figures 56 et 57. Il faut qu'il y ait un rapport parfait entre le degré d'ouverture de la bouche et d'élévation des sourcils. Le sujet d'après lequel j'ai photographié ces expériences électrophysiologiques n'a pas su lui-même imiter ces expressions, parce qu'il ne les sentait pas. On sait que son intelligence est bornée. Je l'avais engagé à exprimer la surprise et l'étonnement de la même manière que dans les figures photographiées que je venais de produire artificiellement. Il ouvrit simplement la bouche, comme s'il allait bâiller. J'eus beau le stimuler, lui faisant écarter plus largement les mâchoires et l'engageant à élever ses sourcils autant que possible, je ne pus en tirer que l'expression niaise et ridicule reproduite par la photographie dans la figure 56. La bouche était ouverte d'une manière exagérée, comparativement à la mollesse des mouvements de ses sourcils et de ses paupières. Aussi a-t-il plutôt l'air de chanter que d'éprouver une émotion occasionnée par l'étonnement.
Planche 7. Le vieil homme et le coq occupent le centre. Encre noire sur et sous les figures, scotch brun, graphite, fine craie rosée. Un animal marin dans le cou du vieil homme. Texte tout en haut, anatomie et physiologie animale, classification arthropode.
Je ne suis pas la hurie que l'on croit. Mes deux yeux effarés en cachent un autre, unique et sans appel, autour duquel s'agence tout le règne animal. C'est l'œil d'un coq fier, d'un aigle philosophe, d'une limace à crête qui tente l'aventure d'un bec. Depuis la glaise asséchée de mes chairs, j'observe sans ciller l'orbite fixe de cet autre moi-même, qui, m'ayant précédé, attend de me survivre. Il est le pivot de ma stupeur, le point de fuite de mes vertiges. Je ne le crains pas, mieux, j'y ai fait allégeance, sachant que c'est dans l'effarement de l'homme, soleil qui brise sa coquille, qu'à livre ouvert peut se lire le présent de la bête.
Planche 8.
Une porte de fonte me sépare de votre monde.
Le vieil homme a la bouche découpée.
Ma parole est au cachot, ma langue aux oubliettes.
Il est rehaussé de gris et de rose.
Je n'ai pour compagnon que ma propre hébétude et cette stridence écarlate venue du fond des âges qui, en perçant ma camisole de nuit, me révèle les mondes lointains et primitifs d'avant ma déchéance.
Au centre,
un fossile occupe l'espace dans la zone inférieure du visage. À droite, carton, calque, encre et graphite.
Fossile.
Un losange, un trait bleu sur des pierres,
encre,
du scotch brun.
Carton.
Horizons verticaux aux franges incertaines, marbres bistres creusant leurs premières veines.
Ma parole est au cachot.
Balbutiement de formes en attente d'une mue. Ces images, par vagues, viennent s'échouer sur les parois de mon cachot. La même où mon angoisse parfois, condamnée au silence, fait rageusement ses griffes.
Ma déchéance.
À droite, sortant du support, pâte acrylique orangée, morceau de carte du Jura.
L'instant fatal, balbutiement de forme.
l'expression originelle de la face. Sont primordiales. Car elles peuvent, en s'associant, produire un ensemble harmonieux et donner naissance à d'autres expressions dont la signification est plus étendue, à des expressions complexes. Un exemple pour expliquer ma pensée. La tension qui est produite par la contraction partielle du frontal et la joie qui est due à la synergie du grand zygomatique et de l'orbiculaire inférieur sont des expressions primordiales. Vient-on à les marier ensemble ? La physionomie annoncera que l'âme est sous la vive impression d'une heureuse nouvelle, d'un bonheur inattendu. C'est une expression complexe. Si à ces deux expressions primordiales, on joint celle de la lascivité ou de la lubricité en faisant contracter synergiquement avec les muscles précédents le transverse du nez, les traits sensuels propres à cette dernière passion montreront le caractère spécial de l'attention attirée par une cause qui excite la lubricité. Peindront parfaitement, par exemple, la situation des vieillards impudiques de la chaste Suzanne.
Grand appareil voltafaradique à double courant. Description de mon appareil le plus récent. Premièrement, l'appareil est mis en fonction par une pile composée de trois éléments. Ces derniers, placés dans des bacs de caoutchouc durci, sont enfermés dans des tiroirs. Deuxièmement, les hélices superposées constituant le système d'induction se composent de deux fils de cuivre rouge différents en diamètre et en longueur et recouverts par de la soie. Troisièmement, le commutateur des hélices est destiné à faire passer rapidement et alternativement le courant dans les conducteurs. En tournant l'aiguille à droite ou à gauche, on conduit l'un ou l'autre courant dans les réophores. Quatrièmement, le graduateur est un cylindre de cuivre rouge qui enveloppe les hélices. Le bouton fixé à son extrémité est destiné à l'attirer ou à le repousser sur cette bobine. Cinquièmement, le modérateur se compose d'un tube de verre terminé à son extrémité inférieure par un fond en métal auquel est soudé un bouton et à son extrémité supérieure par une virole de laquelle part un petit crochet qui sert à mettre le modérateur en rapport avec un des boutons où se rend un des pôles des hélices des courants. Dans la virole supérieure est placé un petit bouchon traversé par la tige du modérateur. Le tube est rempli d'eau. Sixièmement, le trembleur se compose d'un fer doux mobile et d'une vis platinée, contre laquelle ce fer doux est repoussé par un petit ressort. Septièmement, la pédale laisse les mains libres, soit pour tenir les réophores, soit pour graduer les courants.
Planche 9. Le vieil homme a la bouche griffonnée de noir et de gris clair. Scotch jaune au-dessus de la tête, encre rouge sang sur le fossile. Pâte acrylique orangée, morceau de carte de Sainte-Marie de la Mer, l'arbre de Darwin, I think, en zone inférieure gauche.
Je suis une anomalie. Une épreuve du vivant jetée à la corbeille, un sombre marécage que d'artificiels barrages peinent à contenir. Depuis toujours en cage, mes cris sont inaudibles. Ne s'échappe du gouffre de ma bouche qu'une noire énergie, aussitôt coagulée, aussitôt fossilisée. Je sais pourtant que c'est de ce cloaque infâme qu'est né le monde, que c'est en son sein que la terre et les eaux ont songé à se désembrasser, et que les espèces premières ont puisé l'audace de s'inventer des formes. Et bien qu'à jamais retenu dans cette sombre lagune, j'accompagne en pensée leur hésitante progression, quand bien même mes yeux ne peuvent se détacher du chaos vers lequel, inconsciente, elles se hâtent.
Regard en haut, regard oblique en haut et latéralement, regard oblique en bas et latéralement, regard en bas, carré du menton, palébro, orbiculaire palpébral inférieur, fibres excentriques de l'orbiculaire des lèvres, fibres concentriques de l'orbiculaire des lèvres. Masseté, dilatateur des narines, possier, carré du menton, fibre profonde, dilatateur des ailes, dilatateur des ailes du nez, transverse du nez. 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 Transverse du nez.
Planche 10. Le vieil homme a la bouche et le menton découpés et remisés sur le côté droit. Carton, grand fossile en partie inférieure. Cinq pierres de la page 10, bord latéral gauche, scotch brun. Du front de l'homme surgit une patte acrylique orangée, morceau de carte collé et illisible.
Je suis à un fond de puits, une terre argileuse et sèche où les rebuts s'entassent. Enfouis dans la pierraille, sous les strates d'ombre qui lentement obscurcissent leur ciel, j'observe la douleur aiguë qui me tient en éveil. Douleur primitive et toujours s'accentuant de la naissance du monde, instant à jamais brûlant à quoi ma pensée désespérément s'accroche, et où inlassablement elle cherche à découvrir la transparente géométrie de la nuit qui l'étouffe.
Muscle de la joie et de la bienveillance. Le grand zygomatique est le seul muscle qui exprime complètement la joie, à tous ses degrés et dans toutes ses nuances, depuis le simple sourire jusqu'au rire le plus fou. Il ne rend aucune autre expression. La meilleure dénomination que l'on puisse tirer de son action expressive est donc celle du muscle de la joie, bien qu'il ne la justifie pas complètement lorsqu'il est mis partiellement en action. Voyez le sujet représenté dans les figures 30 et 31. Ces grands zygomatiques sont au maximum de contraction. Au premier abord, il paraît s'abandonner au rire le plus franc. Mais un moment d'attention vous fait découvrir que sa gaieté est factice. Plus vous regardez cette bouche riante, plus elle vous blesse par sa fausseté. N'en accusez pas l'exagération de ce rire, car si je vous représentais le sujet souriant, la contraction partielle de ces grands zygomatiques serait aussi peu sympathique. N'en accusez pas non plus la laideur de cette face. La même expérience faite sur la figure la plus belle vous blesserait tout autant et exciterait votre défiance. Si vous comparez ces figures 30 et 31 dont le rire est faux et menteur à la figure 32 du même individu photographiée au moment où j'avais excité sa gaieté, vous sentez qu'ici son rire est franc et communicatif. On remarque cependant dans toutes ces figures la même ligne courbe qui sépare les lèvres, la même sinuosité des sillons nasolabiaux, la même saillie des pommettes, les mêmes rides rayonnantes qui partent de l'angle externe de l'œil. C'est uniquement d'un mouvement particulier de la paupière inférieure que dépend la différence expressive de ces figures. En effet, cachez-en la partie supérieure jusqu'au niveau du bord inférieur de l'orbite, alors vous verrez qu'elles rient tout aussi bien les unes que les autres, et même que la figure 31 exprime la gaieté la plus folle. Mais à l'instant où l'œil est découvert, vous constatez dans la figure 32 que s'il est mis en parfaite harmonie avec le mouvement des commissures labiales pour compléter l'expression du plaisir et de la gaieté, tandis que dans les figures 30 et 31, surtout dans la première, l'indifférence de l'œil contraste d'une manière choquante avec le grand mouvement d'expansion joyeuse et gaie de la partie inférieure du visage. Ce mouvement de la paupière inférieure, sans lequel toute joie ne saurait se peindre sur la face avec vérité, a besoin d'être étudié avec soin. On remarque dans la figure 32 que s'il est formé à 4 mm du bord libre des paupières inférieures, une dépression transversale à concavité supérieure et qu'au-dessous de cette dépression, la peau de la paupière est légèrement gonflée et fait relief, tandis qu'au-dessous de lui, elle est tendue. L'expérimentation
unie à l'observation des mouvements naturels expressifs, m'a démontré que ce modelé particulier des paupières inférieures naît sous l'influence des impressions qui affectent l'âme agréablement et qu'il complète l'expression du sourire et du rire. Le muscle qui produit ce relief de la paupière inférieure n'obéit pas à la volonté. Il n'est mis en jeu que par une affection vraie, par une émotion agréable de l'âme. Son inertie dans le sourire démasque un faux ami. La volonté peut à peine dissimuler son action quand celle-ci est éveillée par un mouvement du cœur. Non seulement il égaye l'œil, et à ce titre, il est le muscle complémentaire du grand zygomatique pour l'expression du sourire ou du rire, mais encore, dans certaines circonstances, il se contracte partiellement sous l'influence des sentiments affectueux. Il rend alors le regard bienveillant. Aussi peut-on l'appeler muscle de la bienveillance.
Darwin, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux. En 1863, le docteur Duchesne publia deux éditions, in folio et in octavio, de son Mécanisme de la physionomie humaine, où il analyse au moyen de l'électricité et représente par de magnifiques photographies les mouvements des muscles de la face. Il m'a généreusement permis de reproduire autant de ces photographies qu'il me conviendrait. Ses travaux ont été traités légèrement ou même complètement négligés par certains de ses compatriotes. Le docteur Duchesne a peut-être exagéré l'importance de la contraction isolée des muscles pris individuellement dans la production de l'expression, car si l'on considère les connexions intimes de ces muscles, il est difficile de croire qu'ils puissent agir isolément. Toutefois, il est certain que le docteur Duchesne s'est parfaitement rendu compte de cette cause d'erreur, aussi bien que de diverses autres, et puisqu'on sait qu'il a parfaitement réussi à élucider par l'électricité la physiologie des muscles de la main, on peut croire aussi qu'il est généralement dans le vrai relativement aux muscles de la face. À mon avis, le travail du docteur Duchesne représente un progrès considérable. Personne n'a plus soigneusement étudié la contraction de chaque muscle en particulier et le plissement de la peau qui en résulte. Il a montré, en outre, et c'est là un service important, quels sont les muscles dont la volonté peut le moins isoler l'action. Lorsque je regardais pour la première fois les photographies du docteur Duchesne, en lisant le texte simultanément et m'instruisant ainsi de l'intention de l'auteur, je fus, à de rares exceptions près, constamment frappé de leur merveilleuse vérité.
Les effarés, l'orthographe des émotions du docteur Duchesne. Une création de Benjamin Bondoneau et Raphaël Saint-Rémy. Avec Charroyer, BHT. Coordination, Irène Omelianenko, attachée d'émission, Chouchan Djergaïan. Prise de son, Alain Joubert et Claude Niort. Réalisation, Anna Smouk.
Ce voyage sonore est disponible en ligne et podcast sur notre site, ainsi que les planches de Benjamin Bondoneau. Demain, dans Création On Air, Hubert Haddad, explorateur immanquable de l'imaginaire, par Laurine Rousselet et Nathalie Salle. Tout de suite, les Nuits de France Culture avec Philippe Garbi.